Nous voici arrivés au soir du 19 juillet et nous poursuivons notre thème « Connais-toi toi-même » à la lumière du livre de Job. Et je vous relis le texte thème de ce camp que je trouve dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, verset 33. Cette exclamation de Paul. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui. Tout est par lui, tout est pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oui, Seigneur, non point à nous, non point à nous, mais à ton nom donne gloire. Que ce soir complètement vidés de nous-mêmes, nous ne soyons que le canal qui communique tes paroles, celles que tu as données, et qui sont esprit et vie. Qu'elles aient ce soir un accès dans nos cœurs, qu'elles nous touchent dans nos consciences, qu'elle illumine notre intelligence. Tu es capable de le faire et de nous transformer à l'image de ton Fils bien-aimé. Car c'est à cela que tu nous avais destinés dans ton amour de toute éternité. Ô notre Dieu, accomplis ton œuvre au milieu des années. Et en ces jours de la fin, suscite des hommes et des femmes entièrement consacrés et dont le cœur est pur et non plus partagé, mais entièrement pour toi dans ce monde. Ne permets pas que nous continuions à clocher des deux côtés. Si le Seigneur est Dieu, que nous puissions le suivre, mais totalement. Et si c'est Baal, eh bien courons après lui. Que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Seigneur Jésus, notre attente est en toi, nos yeux sont sur toi, car nous sommes à ton école. Amen. Eh bien, mes amis, ce soir, nous avons donc à considérer le discours de Bildad de Shua à Job. C'est le second des amis de Job qui est venu voir l'homme éprouvé. Bildad signifie vieille amitié. Et on pourrait s'attendre qu'un vieil ami, puisqu'il porte ce nom-là, aura des paroles d'affection, de compréhension, mais aussi de vérité pour son ami dans l'épreuve. Et nous verrons ensuite la réponse que lui fit Job. Ce matin, nous avons donc pris connaissance de la réponse de Job au discours d'Éliphaz de Théman, l'homme le plus âgé des trois amis. Et nous avons encore en mémoire l'argumentation de ce premier homme qui a osé prendre la parole après ce long silence. Éliphaz a rappelé à Job tous ceux que ce patriarche avait aidé et secouru autrefois. Donc il lui rend témoignage que l'on connaissait ce qu'il avait été et tout le bien qu'il avait pu faire. Mais ensuite, il lui reproche d'être irrité et troublé maintenant qu'il est dans le malheur. Lui qui en a tellement aidé, maintenant il est en train de sombrer, de tomber dans ce trou noir dont nous avons chanté quelque chose. Ne peut-il pas mettre sa confiance, lui dit-il, dans son intégrité, dans sa crainte de l'Éternel? Puis il va plus loin, il lui rappelle qu'au fond, la moisson correspond toujours à ce qu'on a semé. Alors, c'est déjà là une insinuation. Au fond, qu'est-ce que tu es en train de moissonner, Job? C'est peut-être quand même ce que tu as semé. Puis, pour se donner une certaine autorité, il parle d'une espèce de révélation personnelle qu'il aurait eue dans une vision et qui lèverait un voile sur le mystère de la souffrance. Je vous rappelle en quelques mots toute cette argumentation d'Éliphaz. Et il veut, au fond, lui imposer son expérience personnelle. Et c'est là, souvent, notre défaut à nous. Nous avons fait certaines expériences et nous pensons que les autres doivent connaître exactement ce que nous avons connu ou faire exactement ce que nous avons dû faire. Or, c'est là le danger. Ne prêchez pas vos expériences. Vous pouvez peut-être en parler. C'est un peu ce qui se fait dans ce qu'on appelle ces partages, mais c'est toujours assez dangereux. Et puis c'est toujours le moi qui est mis en avant. Ce moi détestable. J'ai vu, et puis je connais, je sais, je suis certain, c'est cela qui est la vérité. Et nous ne convaincons personne. Et son argumentation, c'est au fond ceci, ce qu'il a compris dans cette espèce de vision, c'est au fond comment un mortel pourrait-il être juste devant Dieu? Job se croit juste. Mais dans la vision qu'il nous décrit d'une façon assez saisissante, qui a fait dresser ses cheveux sur sa tête et même tous les poils de son corps, un vrai hérisson. Eh bien, voilà notre Éliphaz qui essaye d'imposer sa vision et puis alors de convaincre Job que pour Dieu, même des êtres supérieurs à un homme mortel, les anges, eh bien, Dieu discerne en eux des tâches peut-être. Alors comment un homme mortel serait-il juste devant Dieu. Donc, Eliphaz a voulu rappeler à son ami Job la grandeur de Dieu. Puis, il montre à Job ce que j'ai appelé le chemin du salut, parce qu'il veut quand même être positif. Eh bien voilà, maintenant que je t'ai souligné la grandeur de Dieu et que je t'ai montré quelle est notre petitesse à nous les hommes, eh bien maintenant, voilà ce que tu dois faire. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit reconnaître que ses épreuves viennent de ses fautes et que ses épreuves, même si elles sont grandes, il les a méritées. C'est un jugement de Dieu, c'est un châtiment de Dieu, et il doit simplement accepter cela comme conséquence de ses fautes. Eh bien, qu'il confesse ses péchés, Dieu est un Dieu de miséricorde, et Dieu, dans son amour, saura bander ses plaies et permettre à Job d'avoir une heureuse vieillesse, et puis une belle mort. Voilà comment finit, au fond, le discours d'Eliphaz. À ce discours, nous avons vu alors ce matin que Job a répondu d'une manière assez vive. La parole d'Eliphaz n'a nullement consolé notre ami. Il s'est senti vraiment, après l'avoir entendu, plus incompris que jamais et mal jugé. Il les avait vus le regarder pendant 7 jours et 7 nuits, et il n'en pouvait plus. De leur silence, il n'avait pas eu, nous le répétons, une seule parole qui puisse l'aider et le soulager. Aussi alors, après le discours d'Eliphaz, vous voyez que Job retourne dans sa complainte, retombe dans sa complainte du chapitre 3, cette complainte qui se terminait comment? Par une demande de mort. Et voilà, si on lui dit, mais non, mais tu dois vivre, mais alors il dit, mais quelle est ma force pour que j'attende? Quelle est ma fin pour que je patiente? Il n'a pas la connaissance du livre de Job. Il ne sait pas ce qui s'est passé au ciel. Il ne sait pas le pourquoi de son épreuve. Et alors, il leur souligne, mais je ne vous ai rien demandé. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me touche quand je relis cela, parce qu'il faut relire plusieurs fois. Eh bien, il est prêt quand même à se laisser instruire par eux. C'est ce qu'il dit au chapitre 6. Mais au moins qu'ils lui fassent comprendre en quoi il s'est égaré, puisque lui, il est conscient de son innocence, mais puisque vous supposez quelque chose qui serait caché en moi, mais dites-moi en quoi je me suis égaré pour que Dieu me châtie d'une pareille manière. Je suis prêt à vous écouter si vous m'éclairez. N'ont-ils pas compris que ce qu'il a dit, ses paroles, étaient outrées parce qu'il était désespéré et il leur dit, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas pesé mon chagrin à la vraie balance, vous y allez légèrement, je suis dans une épreuve terrible et nous l'avons souligné, si vous êtes père et que vous perdez vos 10 enfants, c'est quelque chose. C'est une cicatrice terrible. Parce qu'on est humain. Alors, au chapitre 7, c'est ce qu'on a, je viens de résumer le chapitre 6. Mais maintenant, au chapitre 7, alors tout à coup, Job, se détournant de ses amis qui semblent ne pas le comprendre, il adresse la fin de son discours au Seigneur lui-même. Et il rappelle que le sort de l'homme ici-bas est celui d'un soldat. Ça, il l'a bien compris. et que ces jours aussi sont ceux d'un salarié. Puis, alors, il regarde à ses plaies, il se regarde, il voit sa peau, ses os, ses ulcères, ses vers qui grouillent sur lui, son affreuse maladie, qui fait au fond de lui l'homme dont a parlé ou dont parlera, puisque Ésaïe n'était pas encore là, dont parlera Ésaïe en disant dans le chapitre premier, c'est une description terrible, la tête tout entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et c'est vraiment ce que Job constate en regardant son homme extérieur. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Et il nous a parlé de ses nuits d'insomnie, de son désir d'aller se coucher, et qu'une fois qu'il est couché, comme il n'est pas bien, son désir de se lever, le jour il attend la nuit, et la nuit il attend le jour. Et voilà, les mois passent, et il ne voit pas d'issue. Au fond, c'est un mal incurable, et Dieu permet cela pour que Job voie dans son homme extérieur ce que lui, le saint, voit dans le fond de son cœur. Tout, au fond, lui est manifesté dans sa chair mortelle, mais ce qu'il voit dans l'homme extérieur en lui et qui lui répugne, qui le dégoûte, eh bien, Dieu le permet pour qu'il arrive enfin, et c'est ce que nous verrons au chapitre 42, à dire vraiment « j'ai horreur de moi ». Mais quand il dira « j'ai horreur de moi », c'est pas de son corps physique, c'est de son être intérieur. Parce que nous l'avons lu au début, le cœur de l'homme est trompeur et incurable, désespérément malin, qui le connaît? Mais pourtant Job est un homme religieux, un homme pieux, un saint homme, et pourtant il devra arriver à connaître que en lui il n'y a rien de bon et qu'il ne peut pas se complaire dans sa propre justice et dans sa propre piété. Voilà le pourquoi de cette épreuve, pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour le délivrer immédiatement après que Job eut glorifié son Dieu au sein de ces épreuves. Et nous arrivons à ce moment où Job se pose encore ces pourquoi, et il ne trouve pas de réponse. Au lieu de s'attendre vraiment à Dieu et de ne plus s'occuper de lui-même, eh bien, il s'écrit, si j'ai péché au fond, puisque vous avez l'air de supposer que j'ai péché, eh bien, si j'ai péché, si j'ai commis un crime, puis que Dieu passe sur ma faute, parce que si Dieu n'intervient pas, eh bien, Job, dans son désarroi, vous avez vu ce qu'il imagine. Il imagine Dieu venant trop tard pour le délivrer. Et il imagine Dieu le cherchant à tâtons dans les ténèbres du séjour des morts, comme un berger qui cherche ses brebis au milieu de l'orage, dans la nuit, dans le brouillard, et qui rencontre son ultime frustration dans le non-être de Job. Job n'est plus. Dieu vient pour intervenir, mais Job n'est plus là. Mais ben, il veut pas blasphémer contre Dieu, mais il a des petits moyens de montrer quand même ce qu'il pense. Quand tu viendras, je n'y serai plus. Et alors, tu auras beau me chercher, comme si tu pouvais chercher une âme, puisque tu auras beau me chercher, il y a pas mal d'humour aussi, hein. C'est comme une plaisanterie. Eh bien, et puis voilà, tu ne me trouveras pas. Tu seras venu trop tard, comme si Dieu pouvait être trop tard. C'est ainsi que s'exprime l'attachement désespéré de Job à un Dieu qui aime encore, et il le croit quand même que Dieu l'aime. Mais alors, son amour se manifestera trop tard. C'est un petit peu ce qui nous caractérise souvent. Si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien, nous pensons que rien n'ira plus. Puis, peut-être que Dieu sera déçu. Alors voilà, ce qui nous a occupés. Maintenant, les questions. Est-ce que vous aviez des questions sur ces deux chapitres? Si vous ne les avez pas notées, eh bien, puisqu'on ne veut pas perdre de temps, parce qu'on a trois chapitres à considérer, nous allons tout de suite passer aux trois chapitres. Mais je vous en prie, nous sommes obligés de survoler, comme nous le disions, à une certaine altitude, notre livre. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur tout et faire vraiment des escales trop longues à chaque verset. Nous voulons nous arrêter spécialement à ce qui est essentiel pour nous. Vous avez pu lire ces trois chapitres? Alors, nous arrivons donc à ce premier discours de Bildad, le vieil ami. Et puis ensuite nous passerons à la réponse de Job. Et vous vous souvenez que dans la réponse de Job à Bildad, à Eliphaz et à ses amis, parce qu'Eliphaz parlait au nom des trois quand même, Job s'était plaint de ne pas avoir trouvé vraiment l'amitié qui l'attendait chez ces trois visiteurs. Il avait l'impression d'avoir été trahi, incompris et en quelque sorte trahi. Et il leur avait dit, mais à celui qui est défaillant est due la miséricorde de la part de son ami. Sinon il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. Ou selon la version que nous avons sous les yeux, il dit, celui qui souffre, verset 14 du chapitre 6, a droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même si vous croyez que j'ai abandonné la crainte du Tout-Puissant, eh bien, j'aurai quand même droit à la bienveillance de mon ami. Et on pourrait se dire, bien, Bildad, lui, il va mettre davantage de gants qu'Eliphaz. Et puis on voit que c'est presque le contraire, et qu'il commence presque avec colère de lui parler. Bildad de Choua prit la parole et lui dit, « Mais jusque à quand tiendras-tu ces propos ?» Donc, au fond, il y va fort, et il a un ton de colère, pour ainsi dire. Et les discours de ta bouche, jusque à quand seront-ils un vent impétueux? Je m'avais bien dit que les paroles d'un désespéré étaient bonnes pour le vent. Mais lui, Bildad, eh bien, il voit cela. Au fond, tout ce que tu dis, c'est du vent. C'est un vent impétueux. Et puis, là, il voudrait, Bildad, se faire l'avocat de Dieu. Et c'est ce que nous voulons toujours faire, défendre la cause de Dieu, qu'on croit compromise par notre interlocuteur. Mais Dieu est assez grand pour se défendre. N'essayons pas de défendre Dieu. Nous sommes de mauvais avocats, car chaque fois que nous voulons nous faire les avocats de Dieu, eh bien, nous sommes à côté du sujet. Faisons attention. Nos plaidoiries pour Dieu, n'essayez pas de plaider la cause de Dieu. Dieu est Dieu, et il n'a pas besoin qu'on plaide pour lui. Humilions-nous trouvons cette force dans la prière, sachons descendre dans les profondeurs de Dieu et nous cacher assez pour que le monde ne nous voit plus, mais ne voit plus que la grandeur de Dieu et non pas des hommes, de petits hommes qui essayent de montrer que Dieu est grand. Il n'y a pas besoin de cela parce que finalement on regarde les petits hommes et on ne voit pas Dieu dans sa grandeur. Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si, et alors c'est là, on dira, oui, il a dit le si. Hein. Donc, il ne dit pas certainement, hein, mais il suppose que ses fils, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ont péché contre toi. Vous avez perdu 10 enfants et on vous dit que ces 10 enfants, ils ont été frappés parce que certainement ils vivaient dans le péché. Bien, vous savez, c'est une belle consolation. N'est-ce pas? Voilà ce que des hommes pieux, instruits, professeurs même, sont capables d'apporter à un homme dans la détresse. Ces espèces d'insinuations, ces suppositions. Voilà un homme qui est bouleversé et qui a entendu sa femme lui dire après qu'elle ait porté ses 10 enfants et qu'elle n'en peut plus, ben maudit Dieu, elle meurt parce qu'elle ne comprend pas elle non plus. Et lui a encore encouragé sa femme. Mais voilà que Bildad vient lui dire que ses fils, s'ils sont morts, ben, il a la réponse, lui. S'ils ont péché contre lui, il les a livrés à leur crime. Mais vous voyez ce que ça suppose. Voilà ce qu'on dit de vos enfants. Et pourtant, vous savez combien Job voyait ses enfants. Il ne les avait pas abandonnés. Il les suivait au cours de leur vie. Il ne disait pas, oh, quand ils ont eu 18 ans, je ne me suis plus senti responsable. Ou maintenant 16 ans, hein, je ne suis plus responsable d'eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je ne suis pas responsable. Eh bien, Job, justement, c'était un père responsable. Et alors, donc, Bildad a voulu maintenir la justice de Dieu, puisqu'il pense que Job doute de cette justice, mais en doute la justice de Dieu. Mais en même temps, c'est quand même l'ami, alors il veut parler de sa grâce. Mais toi, toi, pour tes fils, c'est fini. Hein. C'est vrai, ça veut dire ça. Hein. Pour tes fils, c'est fini. Mais il y a encore espoir pour toi. Mais toi, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, vous voyez, il a parlé de justice, maintenant il parle de grâce. Bildad sait que Dieu est un Dieu de grâce quand même. Si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors il veillera sur toi et rétablira ta demeure qui abritera ta justice. Ça, il n'a pas encore compris que ce n'est pas abriter sa justice, c'est manifester la justice de Dieu qui nous est donnée dans l'amour de Dieu. Il rétablira ta demeure qui abritera ta justice, ta première condition. Alors voilà, au fond, sans le vouloir, il est prophète lui aussi, comme on a vu que Eliphaz, sans le vouloir, a dit en quelque sorte une prophétie qui s'est réalisée. Eh bien là aussi, ta première condition semblera peu de choses. Il ne connaît pas la fin, hein, mais il a déjà cette pensée, n'est-ce pas, que Dieu pourtant a réalisée, parce que la fin de Job a été meilleure que son commencement, puisqu'il a reçu le double, n'est-ce pas. Ta première condition que nous avons connu, qui était décrite dans le chapitre premier, semblera peu de choses. Celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Et j'aime toujours à souligner ce fait que Jésus nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Alors, quand on a entendu les paroles du Seigneur et qu'on les a crues, on a la vie, n'est-ce pas? Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et Job avait entendu la parole, il avait cru, il avait la vie. Mais ce que Dieu voulait lui donner, c'était la vie en abondance. Pour avoir la vie, il faut croire ses paroles, mais pour l'avoir en abondance, il faut que notre œil l'ait vu. Et c'est là ce que Job dit. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Là, je m'avance déjà un peu trop, puisque nous n'avons pas encore lu ce dernier chapitre. Mais enfin, vous voyez tout ce combat. Et c'est ce verset 7 qui me fait aller au dernier chapitre. Ta première condition semblera plus de choses, celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Il a dit là une vérité sans le savoir, sans le savoir. Donc quand on dit quelque chose de juste, ça vient pas de notre cœur naturel. Qui est-ce qui nous a révélé? Qui est-ce qui révèle ça? Qu'est-ce qui parle? C'est comme pour l'apôtre Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre, tu n'as pas trouvé ça tout seul. Tu as eu vraiment cette parole de mon Père. Mais quand Pierre parle de lui-même, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais des hommes. Donc, il faut faire bien attention de ne pas avoir simplement des pensées humaines. Parce que nos pensées humaines, si belles soient-elles, si ce sont des pensées humaines, les choses des hommes, eh bien, elles sont inspirées par qui? Par Satan, qui est le prince de ce monde. C'est difficile à admettre, mais c'est comme ça. Où vous êtes sous l'inspiration de Dieu, où vous êtes sous l'inspiration de Satan. Ou vous êtes fils de Dieu en Jésus-Christ, ou vous êtes enfant du diable. Mais vous savez, c'est terrible quand on dit ça à quelqu'un de religieux. J'ai connu de ces cas de gens malades pendant mon ministère et auxquels un ami s'était rendu compte que ce garçon qui était là, malade, qui était un homme très bien de Genève, eh bien, au fond, il avait sa Bible, mais il était simplement religieux, il n'était pas né de nouveau. Et un médecin, qui était aussi malade, mais qui était un de mes amis, lui a dit assez brutalement, parce que lui, il parlait toujours à coups de hache, hein, il lui a dit, tu n'es qu'un fils du diable. Ouh, c'était des choses de terrible. C'était la brouille, il ne voulait plus le voir. Et alors un autre ami, qui était un officier suisse aussi, m'a téléphoné en me disant, viens vite recoller les morceaux. Ça va plus, il fallait raboter. Il avait donné les coups de hache. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller trouver cet homme qui était offensé, terriblement offensé. Puis lui dire la même chose, mais d'une autre manière. Pour que lui arrive à dire, mais alors, il avait raison, l'autre, de me dire ça. Je n'avais jamais compris cela, mais par la parole, chapitre 8 de Jean, n'est-ce pas, il a admis, c'est vrai, et lui aussi est né de nouveau. Et vous voyez, alors, des fois, on fait des gaffes, hein, puis, eh bien, on est ensemble, nous sommes complémentaires dans l'œuvre de Christ, et alors, nous avons un ministère, mais peut-être que quelquefois il faut le coup de hache. Moi je l'aurais pas donné, mais j'aurais peut-être pas pu raboter après. Alors, ne méprisons personne, et puis souvenons-nous que Dieu est au-dessus de toute notre misère. Alors maintenant l'argumentation de Bildad. Verset 8. Interroge donc ceux de la génération précédente. Si notre ami Eliphaz a prêché l'expérience, son expérience, lui, Bildad, fait appel à la tradition des pères, ce qu'on a reçu des pères. Interroge donc ceux des générations précédentes. Sois attentif à l'expérience de leur père. Donc, on peut penser que Bildad n'était pas encore un vieillard vraiment, puisqu'il sent ce besoin de s'appuyer sur les traditions. Il ne prétend pas tout connaître, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Là, il manifeste un peu d'humilité, mais il y a une certaine humilité qui peut être aussi de l'orgueil. L'orgueil de l'humilité, il faut faire attention. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux, donc qui eux? Les pères. Hein. Ces héros qui nous entourent, dont nous avons parlé, cette grande nuée de témoins qui nous entourent et qui sont des exemples, eux ne t'instruiront-ils pas? Oui, moi je veux me laisser instruire par ces hommes de foi du chapitre 11 des Hébreux. Ils te le diront, ils tireront de leur cœur ces propos. Et alors, quels sont ces propos? Et là, je pensais, il faudrait faire une étude sur les images que l'on trouve dans Job. Le jonc pousse-t-il sans un marais? Le papyrus, nous en avons vu en Égypte, hein, peut-il croître sans eau? Encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ils peuvent être vraiment comme le jonc, ils ont cru facilement, ils ont grandi comme un jonc, mais il leur fallait de l'eau. Mais tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. Alors qu'est-ce qui arrive? L'eau, c'est toujours le signe de la bénédiction. Avant, Job avait cru, hein, il était heureux, il avait tout. Il était dans la prospérité. Alors, Bildad prend cette image. Le jonc pousse-t-il sans un marais? Le papyrus peut-il croître sans eau? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu? Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Il n'y va de nous, il n'y va de là où tu... Eh bien voilà, ça va être la récidive. La sécurité charnelle, c'est une toile d'araignée. Voilà encore une image. Hein. Vous vous en souviendrez? Votre maison d'araignée, ça vous donne la sécurité? Gardez toutes ces images, elles vous enrichiront. Méditez, méditez, repassez encore ces choses dans vos cœurs. Il s'appuie sur sa maison, elle ne tient pas. Vous voyez, je m'appuie sur une toile d'araignée. Voilà l'appui humain. Il s'y cramponne, mais elle ne subsiste pas. Riche de sève, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, ses racines s'entrelacent entre un tas de cailloux, il contemple une maison de pierre. L'arrache-t-on de son domicile? Celui-ci le renie. Je ne l'ai jamais vu. C'est vrai, ça, combien on est vite oublié. Combien on est vite oublié. On a eu une grande place, peut-être. On était comme un cèdre verdoyant, comme il l'est dit dans un psaume. Et puis, voilà, que ce temps est passé, nous avons été repris. On a dit du bien de nous autrefois, puis maintenant, on est oublié. On ne sait plus même ce qui a été. Et l'année dernière, j'étais monté justement dans cette ville de Lézin où j'ai travaillé pendant 7 ans. Et j'ai vu la fille du grand professeur de médecine qui avait lancé autrefois l'héliothérapie et qui avait été à la tête de beaucoup de ces sanatorias. Et elle me disait dans les larmes, vous savez, maintenant, plus personne ne se souvient de mon père. Parce que maintenant, la tuberculose, on l'a vaincue d'une autre manière. Et alors, tout ce travail-là s'est oublié. Et cet homme qui s'était vraiment donné, avec qui j'ai pu collaborer bien souvent, qui était devenu un ami, dont la fille a maintenant 80 ans, et nous sommes toujours amis, et nous continuons à nous écrire, eh bien, il souffre de penser que personne ne sait qui était Auguste Prolié, qui était un grand médecin, un professeur, et un fondateur d'une certaine méthode qui avait donné des très bons résultats pour la tuberculose osseuse. Mais on est vite oublié. On avait un grand nom, on avait de grandes maisons, de belles maisons, puis on est oublié. Et c'est ce que Bildad veut dire. Ben, tels sont les délices de sa destinée, puis de cette même poussière, d'autres germeront. Voilà, nous retournons à la poussière, puis d'autres s'élèvent de cette poussière. Non. Alors, sa conclusion. Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Et il veut que Job, puisqu'il était intègre, soit convaincu que Dieu ne le rejette pas. Si Job a cette pensée, c'est faux. Il n'affermit pas la main de ceux qui font le mal. Ne pense pas à Job qu'il y a de l'injustice en Dieu. Bientôt, il remplira ta bouche de cris de joie. Une autre version dit, il remplira ta bouche de rire. Bientôt, tu retrouveras la joie. Et tes lèvres seront pleines d'acclamations. Ceux qui te haïssent seront revêtus de honte. La tente des méchants disparaîtra. Mais qui était vraiment ennemi de Job? Apparemment, Job n'avait que des amis. Nous le verrons plus loin. Alors, en racontant cela, que ses ennemis seraient disparaîtraient, eh bien oui, il y a un verset qui nous dit que nous n'avons pas à nous occuper de nos ennemis. Quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, j'aime beaucoup ce texte des Proverbes, il est dit qu'il met ses ennemis même en paix avec lui. Alors c'est suffisant. Nous nous en remettons au Seigneur et c'est lui qui, un jour, tôt ou tard, remettra nos ennemis en paix avec lui. Ce n'est pas nécessaire qu'il les détruise parce que le Seigneur nous a appris à prier pour nos ennemis. Alors voilà la réponse de Job. En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi. Il admet tout ce que tu viens de dire, je ne vais pas le contester. Et alors, il reprend une phrase d'Eliphaz. Il ne répond pas directement à Bildad, mais il reprend une phrase d'Eliphaz. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est la grande question qui est traitée dans quelle épître? L'épître aux Romains. Dans l'épître aux Romains, vous avez la réponse, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Job se posait la question. Et c'est bien ce qui est arrivé. Et quand Dieu a commencé de questionner Job, eh bien on voit que Job, qui pourtant croyait savoir beaucoup, ne savait rien. S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une réponse sur mille. À lui la sagesse. Et la toute-puissance, c'est la foi de Job qui se manifeste. Mais qui lui résisterait impunément? Il déplace, alors il montre la puissance de Dieu au sujet des montagnes. Les montagnes, c'est le symbole de la stabilité. Eh bien, si Dieu le veut, il déplace les montagnes se mettent à trembler, on pense à un tremblement de terre, ou que sais-je encore. Quand les montagnes s'ébranleraient, chantez-vous, et c'est un texte d'Ésaïe, là aussi. Eh bien, puisque il fait trembler les montagnes, il les déplace sans qu'elles le sachent, parce qu'évidemment les montagnes ne savent rien, il les bouleverse dans sa colère, et ça, il faut bien savoir que la colère de Dieu est une réalité, et qu'il donnera un jour libre cours à sa colère. Et si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, s'il y avait encore quelqu'un parmi vous qui ne soit pas en paix avec Dieu, eh bien, quand l'évangile vous a été annoncé, quand vous savez que c'est en Jésus-Christ, que vous pouvez être réconcilié avec Dieu, eh bien, si vous ne l'êtes pas, sachez que la colère de Dieu demeure sur vous. Et cette colère se manifestera, le monde marche au-devant de la colère qui vient. Et cette colère bouleversera la terre. Il fait trembler la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Inutile de dire les anciens pensaient que la terre était plate et reposait sur des colonnes. C'est un langage poétique qui est employé ici. Alors, souvenez-vous de cela. Et puis, quand il dit « il parle au soleil » et le soleil ne paraît pas, alors vous dites « c'est pas scientifique ça ». Mais qu'est-ce que vous dites vous aussi hein? Seulement vous n'attribuez pas, quand le soleil ne se lève pas, enfin ne se manifeste pas, vous n'attribuez pas cela à Dieu. Et pourtant, on a des explications scientifiques, mais qui est au-dessus de tout cela? Quand il y a un tremblement de terre, on a une explication scientifique. Relisez alors le psaume 29, c'est absolument admirable. La voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, qui est à l'origine de toutes ces catastrophes même. Un raz-de-marée, un tremblement de terre, un volcan, les flammes qui jaillissent de la terre. On a des explications scientifiques, mais dans le psaume, on voit la cause première de tout cela, l'Éternel est derrière cela. Qui dit une chose, et elle arrive si le Seigneur ne l'a pas commandée. Et alors, Job nous montre que, au fond, ce que Bildad lui a dit, ça n'a pas beaucoup avancé, parce qu'il sait tout cela. Il connaît le Dieu qui parle au soleil, le soleil ne paraît pas. Il appose un sceau sur les étoiles, nous avons d'autres explications, mais là, tout est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa providence. Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Qu'est-ce que c'est les hauteurs de la mer? C'est les vagues, n'est-ce pas? Il marche sur les hauteurs de la mer. Ce sont, n'allez pas chercher midi à 14h. Les hauteurs de la mer, ce sont les vagues. Et le Seigneur a marché sur les eaux déchaînées pour aller à la rencontre de ses disciples dans la fameuse tempête du lac de Tibériade. Il a fait la grande ours, Orion et les Pléiades. Vous connaissez ces constellations, les constellations du sud. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nom. C'est pourquoi son nom est merveilleux. Il fait des merveilles sans nombre. Et puis, Job est très conscient que le Seigneur n'est pas si loin que de nous qu'on le pense, comme le Paul le dit, n'est-ce pas, aux païens. Ce Dieu-là, il n'est pas loin de vous, le Dieu vivant. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la nourriture et toutes choses, qui donne les saisons fertiles. En lui, nous avons le mouvement et l'être, dit-il, dit Paul. Alors, Job rejoint au fond ses propos qui seront dits bien plus tard par l'apôtre Paul. Voici qu'il passe près de moi et je ne le vois pas. Mais nous devrions savoir que Dieu est toujours là. qu'il disparaît, je ne le comprends pas. Il y a des moments où il semble que Dieu est éloigné. Qui ramènera ce qu'il arrache? Qui lui dira « Que fais-tu ?» Alors, on arrive dans le fameux verset de Romains. Dieu ne retire pas sa colère. Et ça, nous pouvons en être convaincus. Et elle vient, cette colère. Dieu ne retire pas sa colère. Devant lui s'effondrent les appuis de l'orgueilleux. Notre version dit « Rab », mais on a traduit ici « les appuis de l'orgueilleux ». Rab, c'est l'Égypte, c'est un monstre marin, c'est les fils de l'orgueil. Il ne résiste qu'aux orgueilleux, dit Jacques, mais il fait grâce aux humbles. Et tôt ou tard, les orgueilleux, eh bien, tombent. Souvenez-vous d'Hitler dans son orgueil, de Mussolini, il voulait changer la face du monde dans leur orgueil effréné, et ils ont fini misérablement. Alors, et moi? Comment lui répondre? Tout à coup, Job nous fait un tableau de la puissance de Dieu, et puis il se dit, mais moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir devant lui? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. J'implorerai la grâce de mon juge. Tout à coup, il arrive à comprendre certaines choses. Mais si je devais paraître devant Dieu, eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Pardonne, Seigneur. Parce qu'alors, devant Dieu, on est conscient de sa misère. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Dieu? Qui est Dieu? On l'a mis dans notre poche. Vous avez Dieu dans votre poche? On entend ces expressions, Jésus c'est mon chum. C'est votre chum. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est grave tout cela. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. Alors Job est conscient, même si j'étais juste, quand je serai juste, je ne répondrai pas. J'implorerai la grâce de mon juge. Si j'appelais et qu'il me répond, je ne croirai pas qu'il ait prêté l'oreille à ma voix. Et c'est tellement vrai cela, que de fois vous avez appelé, hein. Puis vous n'avez pas cru qu'il répondait, pourtant il répondait. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, parce que lui sait très bien que ce n'est pas pour ce que les amis pensent que Dieu le fait passer par cette épreuve, mais il ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, pour lui c'est sans raison. Et pourtant, Dieu a une raison. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle. Qu'est-ce qu'il avait dit dans l'autre discours? Il ne me laisse pas le temps d'avaler ma salive. Vous voyez ces images, hein? J'ai pas le temps de reprendre mon souffle. Car il me rassasie d'amertume. Et vous pouvez les compter, les amertumes de Job. Si je recours à la force, mais c'est lui qui est puissant. Qu'est-ce qu'on peut faire contre Dieu? Si c'est au droit, mais qui me fera comparaître? Si j'étais juste, ma bouche me condamnerait. Intègre, elle me donnerait tort. Ses amis lui ont dit, confie-toi en ton intégrité, confie-toi en ta crainte de Dieu, en ta justice. C'est des arguments qui ne collent pas pour Job. Il sait qu'il est intègre, il sait qu'il est juste, mais il ne peut pas se confier là-dedans, puisqu'il voit que malgré son intégrité et sa justice, et puis tout à coup, voyez le travail de Dieu, verset 21, suis-je intègre? On commence à se poser des questions, un doute. Suis-je intègre? Je ne le sais pas moi-même. Connais-toi toi-même. Je ne le sais pas moi-même. Pourtant, avant, il affirmait certaines choses. Puis maintenant, il y a une œuvre qui se fait et il ne sait plus. Je méprise ma vie. Voilà pourquoi il a maudit son jour. Qu'importe après tout. C'est pourquoi je dis, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Pour lui, bien, il ne voit plus la différence. Et même on dira que le méchant prospère, hein, comme le dit le psaume 73. J'ai porté envie aux méchants. Il me semble que les méchants ont moins d'épreuves que les justes. Et alors, on est pris par le doute. Hazar a été pris par le doute. Job a été pris par le doute. Jérémie a été pris par le doute. Que manquait-il à ces hommes au sein de leur souffrance? Une intimité plus grande avec Dieu. Et quand cette intimité leur a été donnée, ils ont compris. Et c'est à cela qu'il faut arriver, à une vie intime avec le Seigneur. Alors on est prêt à passer par tous les chemins que lui voudra. Et alors il se met de nouveau à désirer la mort. Il est poursuivi par son désir de rentrer dans le néant. Si du moins un fléau donnait soudain la mort. Il est dans cet état où il voudrait vraiment un nouveau fléau, mais que ce soit alors le dernier et que ce soit sa fin. Mais il se rit de l'épreuve des innocents. Ça, c'est aller un peu fort, hein, de penser que Dieu se rit de l'épreuve des innocents. Mais parce qu'il a un gros centre, lui. Hein. Alors, il se sent innocent et son expérience, ben, il a l'air de se rire de moi et pourtant je suis innocent. La terre est livrée aux mains des méchants, et ça vous le voyez bien souvent. Ils voient la face des juges. Qu'est-ce que ça veut dire? Les juges ne rendent pas la justice, ils ne voient pas clair. Combien c'est vrai, hein? Ils voient la face des juges. Il y a des juges qui devraient donner la justice, et puis ils ne rendent pas la justice. Pour quelle raison? C'est voilé. Alors on dit, mais comment est-ce que Dieu permet cela? Dieu a ses raisons. Mais vous voyez que Dieu prend toutes les responsabilités. C'est pourquoi j'avais fait cette conférence. Dieu est-il responsable du péché? Parce que c'est toujours ce qu'on dit. Bien oui, Dieu a pris la responsabilité même du péché. Il l'a pris sur lui. Et il ne nous condamne pas parce que nous sommes des pécheurs. Mais parce que le péché qui nous perd, c'est de refuser sa grâce. Il voit la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Hein? Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Eh bien, Job a été honnête. C'est pourquoi, à la fin, vous verrez, Dieu peut dire à aux amis de Job, « Vous n'avez pas parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job. » Job a été vrai. Il a dit, ce sentiment de révolte qui était dans son cœur, il l'a dit. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? J'ai entendu un homme dire, j'aime mieux dire que Dieu n'existe pas parce que s'il existe, je trouve que c'est un monstre. Parce qu'on regarde, les épreuves, les injustices de ce monde, etc. Or, ne parlez plus des injustices qui ne vous touchent pas, parce que quand nous parlons à des gens qui ont été martyrisés, qui ont subi toute espèce d'injustice, j'ai souvent cité le cas de ce frère de Chine qui était 23 ans dans les geôles de Mao Tse-tung, qui a été torturé et tout, et quand on l'a libéré, et qu'un Américain missionnaire que je connais, que j'ai vu, je l'ai entendu de sa bouche, lui a demandé... qu'est-ce que vous pensez de ce temps en prison? Et vous savez ce qu'il a dit, hein? Nous trouvons que ça devait être injuste. Il a dit, c'était une lune de miel avec le Seigneur. N'est-ce pas? Mais nous, nous critiquons Dieu. Comment est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Pour lui, c'était une lune de miel avec le Seigneur. Et pourtant, il était devenu sourd, il était presque aveugle. Et lui, il avait une lune de miel avec le Seigneur. Donc, mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Voilà encore une image. Ils prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Pourtant, n'est-ce pas, ils l'avaient eu le bonheur dans le passé, mais on oublie le passé. Ils passent comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Vous voyez cette rapidité. Et si je dis, je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse, reprendre courage. Des fois, il y a ces moments où il se dit, bien, je vais arrêter d'être déprimé. Mais je suis effrayé de toutes mes peines. Puis, tout à coup, il dit, je sais. Il y en a de ces je sais. Il y en a six au moins, ou sept même dans ce livre de Jean. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. C'est moi qui serai coupable. Si j'ai une rencontre avec toi, ben je le sais d'avance, c'est moi qui serai coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Et là, il a de nouveau de ces images. Si je me lavais dans la neige, si je me nettoyais les mains avec du savon, c'est une recommandation que l'on vous a faite avant les repas, donc c'est aussi dans l'Écriture. Tu me plongerais dans la fosse. Et mes vêtements m'auraient en horreur. Je ne pourrais même plus les porter. Dieu, ben, il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Qui pose? Et il n'y a... Il n'y a pas entre nous d'arbitre. Ah, c'est cela, tout à coup, Job se dit, s'il y avait un arbitre qui pose sa main sur nos deux, qui a été cet arbitre qui a posé la main entre Dieu et les hommes? C'est Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez, il est en quelque sorte annoncé. Le désiré a et est venu. Job désirait qu'il y ait un arbitre entre lui et Dieu. Mais Jésus n'était pas encore venu. Mais cet arbitre est venu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qu'il écarte son bâton de dessus moi. Mais, oui, l'arbitre a écarté le bâton de dessus nous. Mais sur qui est-il tombé le bâton? Sur lui. C'est Ésaïe 53. Vous voyez l'unité de l'Écriture et sa richesse. Que sa terreur ne me trouble plus. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sa terreur ne nous trouble plus. Parce que le sacrifice a été accompli. Alors je parlerai et je ne craindrai pas. Autrement, je ne suis pas moi-même. Qu'est-ce qu'il est dit dans Darby? Autrement, je ne suis pas moi-même. C'est chapitre 9. Hein. Alors, je parlerai et je ne le craindrai pas. Mais il n'en est pas ainsi de moi. Ouais. À ce moment-là, il n'en était pas ainsi de ce qu'il espérait. C'était pas cet état-là. Alors mon âme est dégoûtée de la vie. Voilà qui retombe dans sa complainte. Il retombe dans ce chapitre 3. Je laisserai s'exprimer ma plainte sur mon sort. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Alors, vous voyez maintenant, c'est un cri vers Dieu, c'est une prière vers Dieu. Il en a déjà fait une au chapitre 7. Mais maintenant, il sait très bien qu'il ne peut rien attendre de ses amis, alors au lieu de répondre à ses amis, il va parler à Dieu. Te paraît-il bien d'exercer l'oppression? Il a l'impression d'être vraiment opprimé, de repousser l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce qu'il est au fond l'ouvrage de ses mains? Et de faire briller ta lumière sur le conseil des méchants. Il voit des gens qui prospèrent et qui sont des méchants. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un mortel? Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel et tes années comme les jours de l'homme? Pour que tu recherches ma faute, pour que tu t'inquiètes de mon péché, sachant bien que je ne suis pas condamnable, parce qu'au fond, il sait que Dieu n'ignore pas son état. Et puis, nous avons eu la vision céleste, où Dieu justement a dit, il n'y en a pas un comme lui, parfait, droit, craignant Dieu, et se retirant du mal. Puis, alors, il va plus loin, et c'est admirable, ça. J'aime ces versets, comme tout Israélite, tout Juif, aimait à penser aussi à cette formation dans le sein maternel. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Qu'est-ce qui fait enfanter? C'est le Seigneur. Hein? Qu'est-ce qui ouvre la matrice? C'est le Seigneur qui prend la responsabilité de la naissance. Souviens-toi que tu m'as fait avec de l'argile. Nous avons été tirés de la poussière. Mais voudrais-tu me faire retourner à la poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. C'est le fœtus dans le ventre de sa mère. C'est quelque chose d'absolument admirable. Et on peut suivre cela et voir que ce n'est pas contraire à ce que l'on connaît. Nous partons du liquide et puis ça se caille en quelque sorte. Mais c'est un langage poétique, bien sûr. Alors, ne pressons pas trop. Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé la vie et la bienveillance, tes soins m'ont conservé le souffle. Mais voici que ce que tu réservais dans ton cœur, donc tu m'as formé, tu m'as façonné, et ça rejoint quel psaume ça? 139, n'est-ce pas? Tes yeux ont vu ma substance informe et dans ton livre tous les jours était écrit. Alors qu'il n'en était encore aucun. Mais tout à coup, Job se dit, au fond, Dieu savait, et au fond, il me destinait à cela. Voici que tu réservais dans ton cœur. Je sais ce qui était dans ta pensée. Et si je pêche, tu m'observes. Et tu ne me tiens pas pour innocent de ma faute. Mais si je suis condamnable, malheur à moi. Si je suis juste, je n'ose lever la tête, rassasié de mépris, absorbé dans ma misère. Et si j'ose la redresser, tu me pourchasses comme un lion. Tu me frappes par des miracles. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Ton irritation contre moi augmente. Une armée prend la relève pour m'assalir. Job se voit entouré d'ennemis de tous côtés. Voilà dans quel état maintenant il se trouve. Et c'est vrai, nous passons par des moments semblables où nous connaissons toutes ces puissances de méchanceté qui voudraient nous faire douter de l'amour de Dieu. Alors, voilà de nouveau le pourquoi, verset 18, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein maternel? Voilà qui retombe dans cette idée. J'aurais expiré, aucun œil ne m'aurait vu. Parce que justement, il a été vu maintenant pendant 7 jours et 7 nuits. Puis on continue à le regarder. Je serai comme si je n'avais pas existé. Et j'aurais été porté du ventre de ma mère ou à la tombe. Hein. Mort-né. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse. Qu'il se retire de moi et que je reprenne un peu de courage avant que je m'en aille. Il voudrait un répit pour ne plus revenir. Parce qu'il ne sait pas encore, il n'y a pas encore la révélation complète séjour des morts. Alors, il se figure un peu ce que ça peut être. Mais là, vous devez vous souvenir que la révélation n'est complète qu'avec le Seigneur et les apôtres. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays de ténèbres profondes comme l'obscurité, l'ombre de la mort, où règne le désordre et où la lumière est comme l'obscurité. Vous voyez qu'il a, il n'est pas encore éclairé là, il a des pensées contradictoires au sujet du séjour des morts. Ça ne correspond pas à ce qu'il a dit un peu plus tôt au sujet de la mort. Bien voilà, nous nous arrêtons là, nous avons fait nos 3 chapitres. Vous avez, je l'espère, si vous avez des questions, vous les avez notées, hein. Et puis, nous y répondrons, Dieu voulant, demain. Mais alors, pour demain matin, j'aimerais que vous lisiez, et encore 3 chapitres demain matin. Chapitres 11, 12 et 13, qui contiennent le discours de Sophar, le troisième ami, Sophar, qui veut dire matinal. Hein? Et la réponse de Job. Mais j'ai laissé le chapitre 14 pour demain soir, parce que le chapitre 14, qui est la fin de la réponse de Job, nous allons nous y arrêter un peu plus. Vous êtes tanné de ces études?
Non.
Pas trop fatigué? Bon, alors, merci de bien vouloir vous y préparer par la lecture de ces textes. Nous prions. Nous ne voulons pas nous séparer ce soir sans être venus encore une fois te bénir, parce que nous croyons que tu nous permets d'avancer dans cette étude et de recevoir par les Écritures ces consolations dont nous avons besoin et un peu plus de lumière sur nos vies et sur ce que tu poursuis en chacun de nous. Nous te demandons de nous donner le repos dans cette nuit et de nous préparer la journée de demain afin qu'elle soit ta journée, la journée que le Seigneur aura faite. Nous sommes remplis de reconnaissance et nous t'adorons en te demandant le repos de la nuit. En Jésus. Amen.